Allez mes amis, on va commencer notre cours du lundi. On est toujours sur le balcon, il fait un peu froid aujourd'hui. Mais tant mieux, on goûte un petit peu l'hiver. Je tenais à préciser deux choses. La semaine prochaine, écoutez-moi bien, il n'y a pas cours. Comme c'est Hanouka, on a le droit de se reposer un petit peu et de profiter de la semaine de Hanouka. Et à partir de la semaine d'après, je pense qu'on descendra en bas, comme ils ont séparé la synagogue en plusieurs parties. Donc on se mettra 10 dans un endroit, 10 dans l'autre, et de toute façon on n'est qu'une vingtaine. Et à partir donc dans 15 jours, je pense qu'on fera les cours en bas. On va commencer notre cours aujourd'hui sur la paracha. J'ai hésité, est-ce qu'on parle de Hanouka ou est-ce qu'on parle de la paracha? Et on va parler plus de la paracha, et peut-être qu'on dérivera un petit peu sur Hanouka, peut-être vers la fin. En tout cas, bon, la question avec laquelle on va commencer notre cours, en rappelant que le cours est à la mémoire de monsieur et de madame K1, la question bien évidente, qui est une question tellement évidente que personne ne se pose, comment on peut imaginer une telle dispute entre Yosef et ses frères? Ils ont quand même le même père. Ils ont des mères qui se sont très très bien entendues. On sait tout ce que Rachel a fait pour Léa. Quand Rachel s'est rendue compte que Léa prenait sa place, au lieu de se mettre à hurler, de la traiter de tous les noms, elle lui a donné le code que Yaakov lui avait transmis à dire sous la choupa. Et quand après elle s'est rappelée qu'il y avait un deuxième code pour la nuit, elle s'est cachée dans la chambre, elle a subi tout ce qu'elle a subi pendant toute la nuit de voir sa sœur avec celui qui était censé être son mari. Elle lui a donné le deuxième code. Donc on voit combien Rachel s'est sacrifiée pour Léa. Et évidemment que forcément que les enfants de Léa savaient très bien qui était Rachel. Yosef est le fils de Rachel. Comment on peut imaginer qu'il se soit comporté de cette manière? Une partie voulait le tuer. Heureusement qu'Yehuda est intervenu et on va essayer de comprendre pourquoi Yehuda l'a vendu en Égypte. Mais en tous les cas, même être vendu en Égypte à 17 ans, je veux dire, comment on peut comprendre une histoire pareille? Comment? Quoi? Ah, très bien, non, j'ai rien dit. Et donc, comment on peut comprendre une histoire pareille? C'est... Bon, alors si on n'est pas juif, on va dire c'est des sales youpins et c'est tout. Mais bon, mais nous on est juifs, alors comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on peut comprendre une histoire pareille? Une telle dispute, vendre le fils de leur père à l'âge de 17 ans. Alors en vérité mes amis, c'est parce que ça ne va pas justifier à 100% la réponse que je vais donner, que je vais approfondir. Mais parce qu'il y avait une discussion de fond. Entre surtout Yehuda et Yosef, comme on le sait, entre le juste et le roi, entre le tzadik et le meler, puisque la malchut, la royauté, va sortir de Yehuda, et Yosef incarne le juste, on va préciser dans quelques instants la différence entre eux. Et c'était une lutte pour définir quelle serait la mission d'Israël. Et chacun considérait que l'autre mettait le peuple juif en danger. Un petit peu, bon, ça ne prend pas ces proportions-là, mais un petit peu la même dispute qu'il y a aujourd'hui entre la gauche et la droite, bien qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment ni de gauche ni de droite, la droite est déguisée en gauche et la gauche est déguisée en droite, bon, peu importe. Mais en tous les cas, la gauche et la droite, chacun, je parle des gens bien parmi eux, car évidemment qu'il y a des gens extraordinaires chez les gauchistes aussi, je parle des gauchistes israéliens, et... Eux aussi, ils pensent que si on partage Jérusalem, si on rend la Judée et la Samarie, eh ben on aura la paix avec les Arabes, il n'y aura plus de terrorisme, il n'y aura plus de guerre, et finalement, mieux vaut perdre une partie de sa terre plutôt que perdre la vie. Il y a énormément de gauchistes qui sont persuadés que vraiment, ils veulent le bien de notre peuple. Et donc, et pareil à droite. À droite, ils disent tout le contraire. Si tu commences à leur donner ça, après tu leur donneras ça, et ils te laisseront juste un banc de sable sur la plage, juste le temps de prendre un bateau et de couler. Donc, mais en vérité, des deux côtés, il y a des gens bien qui veulent le bien d'Israël. Mais le problème, c'est que chacun voit l'autre comme un danger qui met le peuple juif en disparition. Parce que si c'est la droite qui a raison alors, et qu'on écoute la gauche, et on va tous disparaître. Si c'est la gauche qui a raison et qu'on écoute la droite, on va tous disparaître. Et donc chacun se bat finalement pour sauver le peuple juif. Je fais allusion à des gens comme Yossi Sarid, etc., qui était un homme extraordinaire, qui vraiment s'est battu pour le bien du peuple juif, même s'il représentait le parti Meretz. C'était vraiment un homme extraordinaire, Yossi Sarid. Alvaï qui en est beaucoup des comme ça, sur le plan humain. Mais il était d'extrême gauche, il était du parti Meretz, mais c'était un homme formidable. Et donc, c'est ça la discussion qu'il y a entre Yosef, comme je vais expliquer dans quelques instants, entre Yosef et Yehuda. Chacun voit l'autre comme quelqu'un qui met en danger le peuple juif, parce que chacun vient au nom d'un idéal qui est, aux yeux de l'autre, un idéal qui va nous faire passer à côté de notre mission en tant que peuple juif et qui va nous mettre totalement en danger. Alors, quelle est la discussion entre Yosef et Yehuda? Alors, je vais commencer par Yehuda. Yehuda, lui, représente le peuple, représente la nation. Je parle bien sûr d'un dirigeant authentique. Aujourd'hui, évidemment que les dirigeants se servent de nous pour s'en mettre plein les poches et plein dans leur ego. Mais je parle d'un vrai dirigeant. Un vrai, je ne veux pas dire le mot roi, parce qu'en français, le mot roi, on va tout de suite voir Louis XIV ou je ne sais quoi. Mais un vrai dirigeant, d'ailleurs à chaque fois, j'oublie et je me dis, mais arrête de dire des bêtises, vous savez que le mot Meller ne veut pas dire roi. Qu'est-ce que veut dire le mot Meller? J'ai déjà dit mille fois. C'est quoi la racine du mot Meller? La lechette, dirigeant. Meller, celui qui conduit les autres. Donc en vérité, je ne sais pas pourquoi on traduit par roi. Dans toutes les Bibles traduites, même par des Juifs, ils traduisent le mot Meller par roi. C'est une erreur terrible. Le mot Meller veut dire un dirigeant. Mais un vrai dirigeant, il n'est là que pour le bien de son peuple. Ça veut dire qu'il s'arrange pour qu'il n'y ait pas 1,5 million de chômeurs sur 7 millions d'Israéliens, comme aujourd'hui. Il s'arrange pour que les adolescents retournent à l'école, comme en France, les écoles ne sont pas fermées, parce que tous les adolescents sont en train de tomber dans la drogue et dans la débauche ici en Israël, parce que ça fait 8 mois qu'ils ne sont pas à l'école. Vous imaginez un gosse de 15, 16 ans, 17 ans, ben, c'est les filles et le hashish. Il ne lui reste rien d'autre et des enfants de très bonnes familles sont en train de tomber, et toute la génération est en train de mourir en Israël, la prochaine génération. Donc un vrai dirigeant, il ne vit que pour son peuple. Et donc ça veut dire qu'il représente la nation. Et il ne pourra pas supporter que les magasins s'écroulent, que plus personne n'ait de quoi manger, etc. C'est un vrai dirigeant. Donc encore une fois, le dirigeant est censé représenter la nation. Ce qui veut dire qu'aux yeux du dirigeant, la mission d'Israël, c'est de construire la nation. Ça, c'était le point de vue de Yehuda. Ça veut dire que l'essentiel, c'est la nation. Alors maintenant, ça pose un problème, parce que dans la nation, pas tout le monde peut être juste, pas tout le monde peut être sadique dans la nation, c'est impossible. Vous savez que nos maîtres expliquent que le mot tzibour, qui veut aussi dire communauté, il est composé de 3 lettres, le tzadik, le juste, le bête, le bénoni, le moyen, et le resh, le rachat. Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois dans mes cours, une nation dans laquelle il n'y a pas des gens aussi tordus, ce n'est pas une nation. Il y a de tout dans une nation. Et il faut plus ou moins gérer les choses comme elles sont. Comment on commence la prière de Yom Kippour, le soir de Yom Kippour? Tu nous permets de prier avec des avarianim. Ça veut dire quoi des avarianim? Des fauteurs, des méchants. Je vous ai raconté cette histoire d'un élève du Baal Shem Tov. Il avait que ses élèves à lui dans la synagogue le soir de Kippour. Et c'est lui qui devait être le chazan et il ne prie pas. Alors un de ses élèves, au bout d'une demi-heure, demande, mais Rabbi, mais attends, ça fait une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, mais il n'y a pas de méchant dans notre synagogue, il faut trouver un méchant, sinon on ne peut pas commencer à prier. On ne représente pas le peuple juif, comme aucun peuple. Et donc ils ont été trouver un taré qui était dans le village d'en face, et le Rabbi l'a mis à côté de lui. Il a dit, surtout ne bouge pas, j'ai besoin de toi, sinon Hachem ne va pas accepter notre prière. Non, mais c'est grandiose comme message. Ça veut dire qu'on doit accepter qu'un peuple n'est pas fait que de justes. Il est fait de gens très hauts, de gens très bas, etc. Et on doit gérer. Et ça, c'était la pensée de Yehuda. Yehuda, lui, sur le plan, on pourrait dire, sur le plan individuel, il accepte tout le monde. Ce qui compte, c'est qu'on soit une nation unie. Et lui se battait pour l'unité de la nation. que la droite accepte la gauche, que la gauche accepte la droite, que les charidim acceptent les chilonim, que les chilonim acceptent les charidim, que chacun comprenne que finalement on a besoin de toutes ces facettes-là. Après, au moment de la délivrance, c'est sûr qu'il n'y aura plus de vrais chilonim, tout le monde fera teshuva. Mais en tous les cas, pour l'instant, pendant toute l'histoire, on doit essayer de vivre avec tout le monde. Et on ne peut pas uniquement s'enfermer dans une seule vision des choses. Ça, c'est les vrais juifs et les autres, c'est les faux juifs. Ça n'existe pas. Ça, c'est la vision de Yehuda. Yosef, lui, il incarne tout le contraire. Yosef, il incarne le juste, le tzaddik. Ce qui veut dire que Yosef, lui, il met en évidence l'individu, pas la nation. Parce que la nation ne peut pas être tous des tzaddikim, c'est absolument impossible. Par contre, sur le plan individuel, un homme peut être injuste. Il peut être un tzaddik. Et donc, la machloquette, la discussion, on pourrait dire entre Yosef et Yehuda, c'était pourquoi Hachem a choisi ce peuple? Qu'est-ce qu'il doit mettre en évidence? Est-ce qu'il doit mettre en évidence la construction d'une nation? Ou il doit mettre en évidence la construction des justes? Et jusqu'à aujourd'hui, ce débat reste, est ouvert, et la machloquette est toujours, comme je vais vous l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on lit dans une des Haftarah que seulement au moment de la délivrance, on compare Yosef et Yehuda à deux morceaux de bois séparés, et le prophète dit qu'on les mettra ensemble, et ils fusionneront, et ils deviendront un seul morceau de bois. Ça veut dire que seulement au moment de la délivrance, cette discussion à savoir qui est le plus important, le juste ou le peuple, seulement au moment de la délivrance, cette machloquette disparaîtra. Et pendant toute l'histoire, elle nous accompagne. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Yehuda, il a vendu Yosef en Égypte. Parce que Yehuda, il a voulu faire comprendre à Yosef la chose suivante. Toi, tu dis que l'essentiel, c'est l'individu, qu'il y ait des justes parmi nous. Mais donc, ça veut dire que tu ne penses pas que la nation est importante. Si tu ne penses pas que la nation est importante, donc ta place ne doit pas forcément être en Israël. Parce que des justes, il y en a eu pendant toute notre histoire, même en dehors d'Israël. Le Baal Shem Tov n'est jamais venu en Israël. Rashi n'est jamais venu en Israël. Le Rambam, n'est pas venu. Il voulait, mais finalement, il s'est arrêté en Égypte. Il n'est jamais venu en Israël. Et combien le Gaon de Vilna et combien 99% de tous les justes qui nous ont accompagnés pendant toute l'histoire ne sont jamais venus en Israël. Et pourtant, c'était des géants sur le plan individuel. Et donc, qu'est-ce que Yehuda veut faire comprendre à Yosef? Si toi, tu penses que l'essentiel, c'est le juste, alors pourquoi on a besoin d'une terre? Pourquoi on a besoin d'une nation? On peut être un très grand juste à New York, le Rabbi Lubavitch. On peut être un très grand juste en Ukraine, le Baal Shem Tov. On n'a pas besoin ni d'une nation, ni d'une terre. Donc va en Égypte. En vérité, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été en Égypte, et c'est précisément avec toutes les épreuves qu'il a eues en Égypte que la Torah l'appelle le juste. Pour nous faire comprendre que quoi? Que malgré toutes les tentations, malgré toutes les difficultés qu'il a eues en Égypte, il n'est jamais tombé. Et il s'appelle, c'est le seul, Yosef HaTzadik. Mais regardez, plus tard dans l'histoire, va sortir quelqu'un qui est un descendant direct de Yosef, qui va être l'une des plus grandes crapules de notre histoire. Comment il s'appelait? Jéroboam. Le premier roi après le schisme, qui va prendre avec lui 10 tribus, c'est un descendant direct de Yosef, disent nos maîtres, direct de Yosef. Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il va devenir roi? Il va faire rentrer l'idolâtrie dans le peuple. Il va mettre des soldats sur toute la frontière qui sépare les 10 tribus des 2 tribus. Et il va ordonner aux soldats, comme Hitler, que toute famille qui essaye d'aller prier au temple, vous tuez hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc. Des milliers de juifs qui ne savaient pas que c'était interdit d'aller se rendre au temple pendant les 3 fêtes se sont fait massacrer par les soldats de Jéroboam. Non, il faut pas le dire, hein, c'était vraiment un sale juif. Hein. Bon, en tous les cas... Donc une crapule inimaginable. Et pourtant un descendant direct de Yosef. Comment c'est possible? Et tous les rois qui vont venir après lui, à chaque fois qu'eux vont fauter, on va dire il est comme Jéroboam. Et Rashi pose la question, pourquoi on dit à chaque fois comme Jéroboam? Pour dire que c'est lui qui a ouvert la porte de la destruction finalement de la royauté d'Israël. Mais comment c'est possible que Yosef, en tant qu'individu dans une terre étrangère, est injuste? Pas injuste, injuste. Et comment se fait-il qu'un descendant direct de Yosef, en Israël, roi des 10 tribus, devient une crapule? Vous savez pourquoi? La Torah nous apprend quelque chose de fabuleux ici. C'est que celui qui pense que l'essentiel c'est l'individu, lorsqu'il prend le pouvoir et qu'il est à la tête d'une nation, il tombe complètement. Il tombe quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette idéologie de comprendre que l'essentiel c'est la nation. Et la preuve, regardez ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui chez tous les dirigeants, sans la moindre exception, le culte de l'ego. Comment il est tombé, Jéroboam? Pourtant, au départ, nos maîtres nous disent, je l'ai déjà dit, vous le savez, c'était quelqu'un de très grand au départ. Tant qu'il n'était pas roi, il était très grand, c'était un descendant de Yosef. C'était l'un des plus grands maîtres de son temps, c'était un homme très droit. Dès qu'il a pris le pouvoir, il est devenu comme tous les dirigeants, une crapule. Pourquoi? Nos maîtres nous disent que quand il a pris le pouvoir, sur le moment, il ne s'est pas rendu compte, et puis après, il a réfléchi, il m'a dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot? Et toutes les 10 tribus vont aller au temple. Et il va y avoir un problème. C'est que vous savez que le seul qui a le droit de s'asseoir dans la cour du temple, c'est un descendant du roi David. Même le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'asseoir dans la cour du temple. À plus forte raison, un dirigeant qui n'est pas de la tribu de David. Alors il s'est dit, je vais avoir un grand problème. Parce que on va tous arriver au temple. Et puis, Rehavam, le fils de Salomon, lui, il va être assis en plein milieu de la cour du temple. Il va être assis sur son trône. Et moi, je vais me tenir debout à côté de lui. Parce que moi, je n'ai pas le droit de m'asseoir. Moi, je suis un descendant de Yosef, je ne suis pas un descendant de Yehuda. Même le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'asseoir. C'est que les descendants du roi David qui peuvent s'asseoir dans la cour du temple. C'était une loi comme ça. Il dit, moi, tout le monde va me voir, moi, debout, comme son serviteur et lui assis. Et tout le monde va regretter de m'avoir élu roi des 10 tribus. Et tout le monde, finalement, va dire, après, allez, on reconstruit l'âme Israël. Et finalement, il n'y a que Rehavam qui va être notre roi sur les 12 tribus. Et il a eu peur de perdre sa place. D'accord? Et donc, de nouvelles élections. Parce qu'on ne peut quand même pas laisser Gans prendre la place de Bibi, non? Donc, de nouvelles élections. Voilà. Et bien, c'est ça, un dirigeant. Voilà. Et moi? Et moi, et moi. Et donc on voit que quoi? Que c'est le culte de l'ego qui a fait que pour pouvoir éloigner Israël du temple, il a fait rentrer des veaux d'or dans le temple et des soldats qui massacraient les familles qui voulaient passer. Ça va loin. Hein? Et tout ça pour ne pas perdre son poste de dirigeant des 10 tribus. Bah, c'est l'exemple de ce qui existe partout dans le monde. Ne soyons pas naïfs. Avec 100%, 80%, 20%, 10%. Mais tout le monde tombe dans le culte de l'ego dès qu'on atteint le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Torah nous révèle. Dans la mesure où Yosef, qui lui était un juste authentique, il était un juste authentique en Égypte et un descendant de lui est devenu une crapule sur la terre d'Israël. Parce que Yosef avait l'idéologie qu'il a transmise dans son ADN, que l'essentiel, c'est l'individu. Alors, quand l'essentiel, c'est l'individu au niveau d'un tzaddik, très bien, bravo. Mais quand ça devient un politicien ou un homme qui n'est pas un tzaddik, c'est je me prosterne devant mon ego et je suis prêt à écraser tout le monde pour ne pas perdre ma place. Et c'est ce qui s'est passé avec Jéroboam. Maintenant, vous comprenez, et Rachid le dit clairement dans notre paracha, que les tribus ont vu qu'allait sortir de Yosef Jéroboam. Et c'est pour ça qu'elles se sont attaquées à lui, parce qu'elles ont compris que finalement, première destruction de temple, deuxième destruction de temple, quatre exils, Auschwitz, Treblinka, à cause de qui? Jéroboam. Eh bien moi, si j'avais été à cette époque-là, j'aurais descendu tout de suite. J'aurais quand même évité 9 millions de morts à Auschwitz et Treblinka, puisque c'est directement la cause de Jéroboam. Le schisme a amené la destruction du temple, surtout l'idolâtrie, etc. Les meurtres, les assassinats de familles entières qui voulaient se rendre au temple. Donc une crapule inimaginable. Première destruction de temple, quatre exils, Auschwitz, Treblinka, jusqu'à aujourd'hui. À cause de qui? Jéroboam. nos maîtres disent que les tribus ont vu ce qui allait sortir de Yosef. Ils ont dit, toi Yosef, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Mais qui t'assure que toute ta lignée sera comme toi? Donc on ne peut pas te laisser mettre en évidence l'individu. Parce que si tu mets en évidence l'individu, tu mets en évidence l'ego. Et ceux qui ne seront pas comme toi, parce que toi tu es un homme extraordinaire, on le reconnaît, mais ceux qui ne seront pas comme toi vont détruire le peuple pour servir leur ego. Et ils ne se sont pas trompés. Des siècles plus tard, va venir Jéroboam. Maintenant, regardons Yehuda. Yehuda, c'est tout le contraire de Yosef. Sur le plan individuel, c'est un minable. Sur le plan collectif, un héros. Pourquoi ? Eh bien, sur le plan individuel, Yosef, en Égypte, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas de moi, c'est de nos maîtres, d'accord ? Un garçon qui était attiré, qui était poursuivi par toutes les filles de l'Égypte, d'accord ? Il n'est jamais tombé une seule fois. Yehuda, qu'est-ce qu'on voit dans notre paracha ? Il part avec une prostituée. À ses yeux, il ne sait pas que c'est sa belle-fille, etc. Il part avec une prostituée. Très bien. Et il ne fait que tomber. Qu'est-ce qui est marqué ? Vayered Yehuda. Yehuda est tombé. Il a trois fils. Les deux premiers, des grosses crapules. Pourquoi ? On le sait. Hachem les a tués jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il faisait de sales choses avec Tamar. Elle était très très belle. Il ne voulait pas que Tamar soit enceinte. Parce que bon, après, elle est grosse, machin, etc. Ils ne peuvent plus s'amuser. Donc, il s'arrangeait pour que ça sorte à l'extérieur. Excusez-moi l'expression. De manière à ce qu'elle ne tombe pas enceinte. Voilà. Quand Hachem a vu ça, il est rentré dedans. Les deux premiers fils de Yehuda sont morts. Donc, c'est quand même... Il descend. Il a des fils qui se comportent avec leur épouse d'une manière crapuleuse. Quoi, tu veux une poupée sexuelle, c'est ce que tu veux. Tu veux pas d'enfant, tu veux pas qu'elle soit enceinte. Et alors, elle va se déformer un petit peu, etc. Mais d'accord, mais c'est ton épouse, elle est là pour être une mère. D'accord ? Non. Ils se comportent vraiment comme s'ils avaient une prostituée entre les mains. Et le père lui-même va partir avec une prostituée. Donc on voit que sur le plan individuel, Yehuda, c'est pas Yosef. D'accord ? Mais qui va sortir de Yehuda ? David. D'abord Peretz, et après David, et le Mashiach. Ça veut dire que, sauf kol sauf, sur le plan individuel, il est tout le contraire de Yosef. Yosef ne tombe jamais. Mais quand il met un dirigeant du peuple à la tête du peuple, ça devient une catastrophe. Et Yehuda, c'est tout le contraire. Sur le plan individuel, Yehuda, c'est certainement pas un modèle, mais sur le plan collectif, il va mettre au monde, finalement, les deux lumières qui vont sauver pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière, David et Mashiach. Pourquoi ? Parce que l'idéologie de Yehuda, je ne pense qu'à mon peuple, c'est vrai que je ne pense pas trop à moi, mais je pense qu'à mon peuple, d'accord ? Et l'idéologie de Yosef, l'individu. Et tant que c'est un Yosef, ça marche bien, mais quand c'est plus un Yosef, c'est le culte de l'ego. Yehuda, c'est le contraire. C'est le peuple l'essentiel, je pense pas trop à moi, et sur le plan individuel, tu peux te casser la figure complètement.
Mais alors, Rav, s'il vous plaît, je peux faire ce que je veux, moi, je suis un individu,
oui.
Je fais ce que je veux, et je te dis bien, à ce monsieur, à vous, à lui, à elle, etc. C'est une idéologie valable, ça ?
A priori, non. Évidemment qu'un homme ne peut pas se dire, si moi je fais du bien au peuple, j'ai le droit de faire ce que je veux.
L'apologie de Yehuda sur le plan... national, eh bien, on a l'impression que Yehuda, c'est le modèle qui a donné naissance à David et Mashiach.
C'est le modèle sur le plan national.
Moi, alors que moi, individu, je fais ce que je veux, je couche avec Pierrette et Paulette, etc. Et je ne suis pas puni.
J'ai pas de réponse. On n'arrive pas à comprendre comment Yehuda va avec une prostituée. On n'arrive pas à comprendre. La seule réponse qu'on peut avoir, c'est que Yehuda était tellement anti-culte de l'individu que finalement, ça s'est retourné un petit peu contre lui et il est tombé lui aussi. Lui ne voyait que la nation. La nation, la nation, la nation, la nation. Et pour la nation, il a mis au monde Peretz, après David, et puis beaucoup d'autres grands, dont le but final sera le Mashiach qui va sauver l'humanité tout entière.
On exerce son ego, finalement.
Comment ?
Il a mis en exerce son ego.
Oui, mais pas sur, mais non, l'exerce de l'ego, c'est quand tu écrases le peuple pour tes intérêts personnels. Ce que font tous les dirigeants, c'est ça le vrai culte de l'ego. Tu écrases le peuple pour ton intérêt personnel.
D'accord.
Voilà. Mais maintenant, si tu suis ton ego, mais tu fais de mal à personne, d'accord. Jéroboam a massacré son peuple. Il a massacré 10 tribus. Y compris que c'est à cause de lui qu'il y a eu l'exil des 10 tribus qui ont disparu aujourd'hui. D'accord. Donc il est responsable, mais des pires choses qui est arrivé à notre peuple, Jéroboam. Pourquoi? Pour ne pas perdre sa place de dirigeant, comme le disent explicitement nos maîtres. C'est-à-dire qu'il a tout sacrifié pour rester roi jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est le véritable culte de l'ego. Comprenez? Maintenant, aller avec une prostituée, je fais de mal à personne. Je ne l'ai pas violée, elle a accepté. Elle a pris de l'argent pour ça. Donc c'est de l'ego, je suis d'accord, mais ce n'est pas un ego qui fait du mal aux autres. Moi, je parle de l'ego qui fait du mal aux autres. Ça, c'est l'ego le plus terrible. Voilà. Donc, Yehuda n'a pas cet ego-là, puisqu'au contraire, lui, tout ce qu'il veut, c'est la nation. Je voudrais aller un petit peu plus loin et vous expliquer encore des choses extraordinaires. Vous savez qu'en vérité, nos maîtres nous disent qu'on a deux Torahs. Au niveau des noms, on a la Torah mi-Sinaï et la Torah mi-Tzion. Au futur, ki mitzion tetzé Torah. Un jour, la Torah sortira de Tzion. Udvar Hashem et Yerushalayim. Quand je parle d'une Torah qui sort de Tzion et de Yerushalayim, ça fait allusion à la Torah de la nation. Bien sûr, puisque Jérusalem, c'est la capitale de la nation d'Israël. Donc, une Torah qui sort de Tzion, au moment où il y a le Bet Amigdash, et Udvar Hashem et Yerushalayim, la parole d'Hashem de Jérusalem. Donc forcément, la parole d'Hachem sort de la capitale de la nation d'Israël. Donc la Torah de Tzion, c'est la Torah de la nation d'Israël. Et la Torah du Sinaï, comment qu'elle est appelée par le dernier prophète Malachi? Zirchu Torat Moshe. Zirchu Torat Moshe. Elle est appelée par le dernier des prophètes, dans pratiquement l'avant-dernier verset, la Torah de Moshe. La Torah de Moshe? Mais non, c'est la Torah d'Hachem. Pourquoi la Torah de Moshe? Bon, c'est vrai, il nous l'a donnée, mais très bien. Pourquoi on l'appelle la Torah de Moshe? Eh bien, regardez. Le mot Sinaï. Faisons vite la valeur numérique, monsieur Attali. Allez, vous êtes le champion des valeurs numériques. Sinaï, à quelle valeur numérique? C'est 130. Sinaï. Samer, Yud, Nun, Yud. 130. 130, ça vous fait penser à quoi, 130? Ça vous fait penser aux 130 ans où, après la faute, Adam s'est séparé de Chava, ouais, qui est le symbole de l'exil, la séparation entre ceux qui devraient être ensemble. Et combien de temps on a été en Égypte, en exil noir, jusqu'à la naissance de Moshe, où commence le processus de la délivrance? 130 ans. Puisque Moshe est né 80 ans avant la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, 210 ans, moins 80, 130. On a 130 ans d'exil en Égypte avant que commence le processus de la délivrance par la naissance de Moshe, que les sages de Pharaon voulaient tuer en jetant les enfants dans le Nil, parce qu'ils savaient que la délivrance allait commencer. 130 ans de séparation entre... Tout de suite après la faute entre Adam et Ève. Et comment, qu'est-ce que Hachem fait après la faute? Va y garesh otam, il les a chassés. Chassés de l'endroit où ils étaient. Très bien. Et c'est quoi la séparation entre Adam et Ève? Eh bien, c'est la séparation à l'intérieur du peuple juif. Des juifs en Russie, des juifs en Ukraine, des juifs en Irak, des juifs au Maroc, des juifs en Tunisie, des juifs en Espagne. La séparation, on n'est plus ensemble. C'est ça le symbole. Donc le chiffre 130, il incarne l'exil. Et donc la Torah du Sinaï, qui a pour valeur numérique 130, c'est la Torah de l'exil. Et vous comprenez pourquoi on l'appelle la Torah de Moshe? Parce que la Torah de l'exil, c'est le culte du juste, puisqu'on n'a plus de nation. Bien oui. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, on continue à avoir ça dans notre peuple. Bien sûr. Les Lubavitch ne parlent que du Rabbi de Lubavitch. Les Breslev ne parlent que de Rabbi Nachman de Breslev. Les Datim Leumim ne parlent que du Rav Kook. Les gens de droite ne parlent que de Bibi. Très bien. Et donc finalement, c'est le culte de l'homme. Ça veut dire personne ne parle d'Hachem, qui est le Dieu de la nation d'Israël. Finalement, c'est ça la Torah de l'exil. Les Litaïm ne parlent que du Gaon de Vilna, etc., etc. Ça veut dire que chacun se prend son homme, d'accord, et on avance qu'avec lui. C'est ça la Torah du Sinaï. Mais le Mashiach, qu'est-ce qu'il va dévoiler, la Torah du Tzion, la Torah de Jérusalem? Arrêtez de parler du rabbi untel, du tzaddik untel, du politicien untel, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est la Torah de la nation d'Israël. Udvar Hashem meyirushalayim. Et cette Torah, elle n'existe pas. On ne l'a pas aujourd'hui. Parce que même si chaque partie de notre peuple a un juste authentique à sa tête, mais malgré tout, ce n'est pas la Torah de la nation. Pas tout Israël est Lubavitch, pas tout Israël est Breslev, et pas tout Israël est Dati Lehumi. Donc forcément, en ne parlant que d'un juste, tu morcelles la nation d'Israël.
Est-ce que ça a un lien avec 130, c'est aussi dans la valeur numérique de Kol. Kol Yaakov, Roi Metakolot. Est-ce qu'il y a un lien?
Mais c'est tellement juste que vous dites. Bon, mais ça c'est très compliqué. D'après le Zohar, le Kol représente l'intériorité. Et le Dibour, l'extériorité. Et il y a une séparation entre l'intériorité et l'extériorité. C'est quand je parle, mes paroles, c'est mon extériorité. Mais je parle je parle bien, Nahon ? Très bien. Et donc je parle avec passion, donc ça c'est le col. D'accord ? Mais si quelqu'un c'est un professeur d'université, d'accord ? Il parle uniquement avec son extériorité. Il n'y a pas d'intériorité. Bon, sauf si vraiment il aime son métier. Ou bien il y a des fois des gens qui ne parlent qu'avec l'intériorité, mais leur parole, elle est incompréhensible, parce qu'ils sont tellement émotifs, tellement comme dans les sectes, etc., que donc il n'y a pas le dibour, il n'y a que le col. Et donc c'est ça aussi, c'est qu'on a séparé l'intériorité de l'extériorité. Le col, il est tout seul. Et en fait, le dibour représente la malroute, représente la nation. Bon, ça c'est une notion plus compliquée que je ne voulais pas aborder, mais comme vous l'avez abordé, je vous donne quelques allusions. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que la Torah du Sinaï, qu'on a reçue où? En Eretz Israël? Mais non, on l'a reçue dans le Sinaï. On n'était pas encore sur notre terre. Et vous savez ce que de grands commentaires nous expliquent, dont un, j'ai oublié le nom, un des plus grands. Normalement, ce n'était pas prévu qu'on reçoive la Torah dans le Sinaï. On devait rentrer tout de suite en Israël et recevoir la Torah directement, la vraie Torah, à Jérusalem. Mais comme il y a eu la faute du veau d'or, et puis la faute des explorateurs, et qu'évidemment Hachem savait à l'avance tout ce qui allait se produire, et que finalement, à cause de la faute du veau d'or et la faute des explorateurs, on aurait 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans d'exil, depuis la destruction du premier temple jusqu'à aujourd'hui, c'est 3000 ans. Que j'expliquais, à l'époque de Ezra, seulement 2-3% sont revenus, 98% sont restés en galoute. Ça fait 3000 ans qu'on est en exil sur 4000 ans d'histoire. Hachem, comme il avait vu tout ça, il leur a dit, bon, ben, je vais leur donner la Torah dans le désert. Elle va s'appeler la Torah du Sinaï, c'est la Torah de l'exil. Et la Torah de l'exil, bon, qui nous a permis de revenir sur notre terre. Heureusement qu'on avait des tzadikim. Je ne suis pas chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, je ne parle pas des tzadikim. Heureusement qu'on a eu le Rabbi Lubavitch, heureusement qu'on a Rabbi Nachman, heureusement qu'on a le Rav Kook, heureusement qu'on a un tel. Ce que j'explique, c'est que la Torah du Galout, elle se morcelle autour d'un homme qui ne peut pas être reconnu par tout Israël. Jusqu'à aujourd'hui, aucun tzaddik a mérité que tout Israël se mette derrière lui. Aussi grand était le Rabbi Lubavitch, il n'a pas eu tout Israël avec lui. Aussi grand qu'était le Gaon de Vilna, il n'a pas eu tout Israël avec lui. Aussi grand qu'était Baba Salé, il n'a pas eu tout Israël avec lui. Ça reste morcelé. Donc c'est la Torah de l'exil. Puisque c'est quoi l'exil? On est morcelé. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Donc pareil au niveau de la Torah. Et qu'est-ce que va faire le Mashiach? Il va redévoiler une Torah que nous n'avons jamais encore reçue. La Torah de Jérusalem. Ou la Torah de Tzion. Une Torah qui va englober tout le Ham Israël. Ça veut dire que, et c'est pour ça que c'est marqué Udvar Hashem Yerushalayim. Il n'est pas dit Udvar Arabi Milubavitch, il n'est pas dit Udvar Arabi Nachman. Udvar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire que tout le monde reconnaîtra que sa véritable source de lumière, c'est pas le tzaddik, c'est qui? C'est Hashem. Et à ce moment-là, ce sera la délivrance pour le monde entier. D'accord? Plus de culte de l'homme sur le plan politique, plus de culte de l'homme sur le plan spirituel. On sera tous attachés directement à Hachem. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de tzadikim, mais on saura que la place du tzadik, c'est de transmettre la lumière, mais pas de s'arrêter à lui. Uniquement de transmettre la lumière. Mais on remontera tous à la véritable source qui est Hachem. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi même dans la Torah qu'on a, Torah Missina et Torah Mitzion, on retrouve cette notion-là. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes amis? Je veux dire par là, avant de passer après à Hanouka, je veux dire par là quelque chose de très très important. Nous sommes la génération qui sommes revenus sur notre terre. C'est vrai, grâce à Dieu, on a eu un cadeau extraordinaire. Mais comme je dis toujours, là où il y a un bien énorme, toutes les forces contraires sont présentes aussi. C'est normal. D'ailleurs, j'ai fait un cours hier là-dessus que je vais mettre encore cet après-midi sur le site. Un cours très important qu'il faut vraiment écouter. Comment j'explique comment tout le processus de la délivrance, Hachem est obligé de le cacher. On en a souvent parlé, mais là, je l'explique de manière extraordinaire. C'est normal puisque c'est moi qui parle. Donc,
Le cul de la personnalité.
Le cul de la personnalité. Mais moi j'ai pas honte de dire que j'ai un super ego. J'ai pas honte de le dire. Attends, quand même, j'enseigne la Torah dans le monde entier. C'est pas n'importe quoi, le Rav Dino. Alors, et donc, ce cours-là, il va falloir vraiment écouter, où j'explique comment Hachem est obligé de cacher le processus de la délivrance, parce que sinon, toutes les forces contraires s'attaqueraient dessus, et il n'y a aucune chance qu'on ait la délivrance. Et donc, vous verrez, ce cours, je le mettrai cet après-midi. Donc, vous pourrez l'écouter ce soir ou demain. En tous les cas, je reviens à ce que j'explique. On est revenu sur notre terre et on doit comprendre, mes amis, et le problème c'est que comme ça fait 3000 ans qu'on a été en exil, c'est dans notre ADN. Et pendant 3000 ans, finalement, notre peuple, finalement, n'a servi que des hommes. Parce que chaque communauté avait son juste, avait son... Et encore, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, mais ce problème c'est que, imaginez-vous des communautés qui n'ont rien connu d'autre que le patelin dans lequel ils étaient. Il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, pas de télévision, pas de courrier, il n'y avait rien. Il y avait le juste de la communauté, et c'est tout. Je veux dire, on connaissait que ça. Il n'y avait pas de nation, il n'y avait même pas de lien entre une communauté et une autre. Vous imaginez, en Russie, c'est tellement grand, comment les communautés pouvaient avoir un lien les unes avec les autres. Donc chacun avait son juste et... Bon, maintenant, c'est quelque chose qui est tellement... Sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans, on a vécu comme ça. C'est rentré dans notre ADN. Et même si on est revenu sur notre terre, on continue à vivre d'une certaine manière, de cette manière-là. D'accord? Et pas seulement, encore une fois, sur le plan religieux, même sur le plan politique. Bi, 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 bi. Ça veut dire, voilà, c'est Sharon, Begin. Bon, parce qu'on est de droite, alors on parle comme ça. Mais si on est de gauche, on va dire Sarit. D'accord? Voilà. Ok, donc il n'y a pas de différence entre finalement le culte de la personnalité sur le plan politique ou religieux. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et donc, on doit faire un effort énorme, avant que je passe à la deuxième partie du cours, on doit faire un effort énorme, mes amis, pour comprendre que à l'approche de la délivrance, l'essentiel c'est le peuple, c'est pas les hommes. Et un homme ne nous intéresse que dans la mesure où il sacrifie sa vie pour son peuple. Mais s'il ne sacrifie pas sa vie pour son peuple, qu'il aille se faire voir. Mes amis, vous savez combien de vrais dirigeants on a eu dans notre histoire, sur 4000 ans d'histoire? Combien qu'on en a eu de vrais dirigeants? Deux seulement. Qui c'est qui peut me dire? C'est vrai que je dirais David, mais sur David, il n'est pas dit ce que je vais dire sur deux autres. Si, il est dit aussi. On en a eu trois. Je vais vous dire sur David aussi. Mais d'abord, les deux premiers dont parlent nos maîtres. Moshe et Shmuel. Shmuel était un chauffette. Il a dirigé son peuple jusqu'à la venue de Shaoul. Et Moshe. Pourquoi c'était de vrais dirigeants, disent nos maîtres? Parce qu'ils étaient beaux, intelligents, parce qu'ils étaient sages, parce qu'ils étaient très spirituels. n'importe quoi. Pourquoi ils étaient de vrais dirigeants, disent nos maîtres? Les seuls de nos maîtres disent dans le Talmud que les seuls vrais dirigeants qu'on a eus, c'était Shmuel et bon, c'est vrai que David aussi, je vais expliquer dans quelques instants. Mais pourquoi eux? Ils se sont sacrifiés, mais comment ils se sont sacrifiés? Ça c'est facile à dire, mais ça veut dire quoi? Ils ont donné 24 heures sur 24 toute leur vie pour le peuple. Ils ont refusé de recevoir un salaire du peuple. Tout ce qu'ils dépensaient, c'était de leur poche. Et ils n'ont jamais pris un centime du peuple. Sortez les mouchoirs et pleurez. Parce que chez nous, toutes les 6 mois, ils augmentent les salaires des... Enfin, comme partout ailleurs. Hein. Très bien. C'est-à-dire que 1,5 million de personnes n'ont plus de quoi manger, mais on augmente les salaires des Khaber Knesset. Très bien. Donc, ils n'ont pas pris un centime du peuple, Moshe et Shmuel. Maintenant, passons à David. David, nos maîtres nous disent que toute sa vie, pour ne pas abuser de tout l'argent qu'il avait, toute sa vie, il s'est contenté comme repas toutes les 24 heures d'un verre d'eau et d'un morceau de pain. C'est dans le Talmud, c'est pas de moi. Vous imaginez un roi qui boit un verre d'eau et un morceau de pain? Oui, bon, il dormait aussi que 18 minutes par 24 heures. Bon, David Améler, c'était un surhomme, on peut pas comprendre, c'est pas de notre dimension à nous. Mais il dormait 18 minutes par 24 heures et il mangeait une fois en 24 heures un morceau de pain et un verre d'eau. Pour pas qu'on puisse dire qu'il profite de l'argent, des impôts, etc., etc. Son fils Salomon était un homme extraordinaire et il a fait tout le contraire de son père. D'accord? Il a pris des millions d'impôts au peuple pour construire 1000 palais à ses femmes dans lesquels il y avait 1000 idoles dans chaque palais. Un homme extraordinaire, le roi Salomon. Et donc, mais son père, c'était un vrai dirigeant. Un vrai de vrai. C'est pour ça que Jéroboam s'est révolté contre Salomon. Il dit, mais comment tu oses prélever des impôts comme ça pour faire des palais à tes femmes qui ne rendent que des idoles dans leur palais? Parce que c'était tous des fausses conversions, elles étaient toutes restées idolâtres. Toutes. Et vers la fin de la vie du roi Salomon, elles n'ont même pas eu honte de cacher leurs idoles qu'elles cachaient sous leurs oreillers. Elles les ont sorties et mises dans les palais. Et là, Jéroboam s'est révolté. Le fameux Jéroboam dont on a parlé tout à l'heure. Au début, c'était un homme extraordinaire. Mais quand il a pris le pouvoir, il a pété un câble. Donc, le roi David, juste je termine, prenait un verre d'eau et un morceau de pain toute sa vie en tant que roi. Oui.
Manitou disait que Israël, la gématria d'Israël, vous parliez de David et de Moshe, c'est la gématria de David plus Moshe et de Yaakov. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conquis Israël, c'est donc le pays, la terre. Moshe, il a donné la Torah. Et Yaakov, c'est les 12 tribus, donc c'est le peuple.
Absolument. Vous avez 100% raison. Chacun a donné une partie, la Torah, la terre et la nation.
Absolument. Il a quand même partagé le repas de son beau-père.
Il a partagé
le repas avec son beau-père, Yétro.
Moshe. Non, Moshe, non. Regardez ce que dit Rashi. Il n'a pas mangé quand Yétro est venu. C'est lui qui servait tout le monde. Moshe lui-même. Il ne s'est pas assis et il servait tout le monde. Pour montrer du kavod à son beau-père, il est resté debout et il servait tout le monde quand Yitro a rejoint Israël dans le désert. Rachid le dit explicitement. Et donc, encore une fois, c'est quoi la définition d'un véritable dirigeant? Quelqu'un qui va se sacrifier de manger que du pain et de l'eau, ou que s'il a suffisamment d'argent, qu'il va dépenser son argent pour servir le peuple? Maintenant, je peux vous garantir, d'accord, pourquoi le Mashiach, il viendra sur un âne? Parce que s'il vient dans une voiture, il n'a pas assez d'argent pour se payer l'essence. Vous croyez qu'il va demander au peuple de lui payer l'essence? Mais jamais de la vie. On va tomber par terre quand on va voir le Mashiach. Tous les millionnaires vont venir, ils vont dire, allez, prends. Vous me direz, pas du tout. Non, moi j'ai mon âne, ça me suffit. Comment t'as ton âne, ça te suffit? Non, j'ai mon âne. Moi, je vis pour le peuple. Je ne demande pas au peuple de vivre pour moi. Waouh. Allez, l'espoir fait vivre. Bon. Ouais, même pas y téléphone. Hein, comme dans la chanson, un filolo metalfen. Waouh. Vous imaginez, il va venir sur un âne. Oh. Il prendra pas un sou de personne. Comment ?
Finalement, il sert à rien.
Mais si, il vous remettra à votre place.
Mais comment ? Il va chercher son âne, il va regarder le monde.
Il va regarder le monde. Il va regarder le monde. Il va. Il va. Mais on parle. Mais il sert à quoi ? Il va partir en guerre contre le mal entier. Il va faillir être assassiné 1 milliard de fois. Et avec son petit âne, peut-être que ça sera un âne qui a plein de missiles dedans. Je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il va cacher des missiles dans son âne. On ne sait pas. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire ? C'est intéressant, hein, c'est intéressant parce que précisément ce matin, j'étudiais un texte dans le Zohar, c'est incroyable votre question, un texte que je ne connaissais pas, mais pourtant je l'ai dit des milliers de fois, que Hachem ne se dévoilera dans ce monde que quand il y aura des gens qui auront le courage de se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça veut dire pas seulement mettre les tefilines, manger kasher, etc., faire Shabbat, des gens qui partiront en guerre contre tous les méchants de ce monde. Ça veut dire là aussi l'espoir fait vivre. Mais c'est ce que le Mashiach va faire. Il va, toute sa vie, il va être en danger. Vous imaginez partir en guerre contre... Rien que contre Wall Street. Non mais, vous imaginez. Alors, et ne parlons pas de la mafia colombienne, ne parlons pas de ci, ne parlons pas de ça. C'est des enjeux financiers qui sont tellement énormes qu'il ne va même pas avoir le temps de sortir son nez qu'il sera déjà assassiné. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne vient pas parce qu'il a peur et je le comprends. On continue. On va passer maintenant à Hanouka. Il nous reste un quart d'heure. Hanouka, mes amis, c'est la lumière de l'individu ou la lumière du peuple ? Réfléchissez bien. La lumière de l'individu ou la lumière du peuple, Hanouka ? C'est la lumière du peuple et de l'individu. La paix entre les deux. Les 7 lumières incarnent les 7 jours de la semaine, incarnent les 7 dimensions que les 8 jours, pardon. Les 8 jours, non, parce que je confondais avec le Shamash après. Le Shamash et le Tzadik, comme on va voir. Les 8 jours correspondent à la Brit Mila, qui est l'alliance qu'Hachem a fait avec Israël. D'accord ? La Brit Mila. D'ailleurs, c'est intéressant, nos maîtres disent déjà il y a 2000 ans dans le Talmud. Ils ne se sont pas vraiment trompés, mais aujourd'hui les choses commencent un petit peu à changer. Ils ont dit cette mitzvah ne disparaîtra jamais du peuple juif, même de ceux qui ne mangent pas kasher, qui ne font pas Shabbat. C'était vrai. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une tendance, rares sont ceux qui le savent, à l'intérieur du peuple juif, il y a pas mal d'Israéliens qui ne font plus la circoncision aujourd'hui. Qui ne font pas la circoncision aujourd'hui. Oui. Ça commence malheureusement. Oui. Donc, on va dire au Mashiach d'au moins téléphoner parce que sinon, où on va aller ? Mais bon, mais malgré tout, je veux dire, même chez les Juifs les plus assimilés, les plus même qui mangeaient du porc à Kippour, ne pas faire la circoncision, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a, bon, ça en reste encore très, très, très minoritaire, très, très minoritaire. Mais il y a, ça commence aujourd'hui dans le milieu israélien, très anarchiste, etc. Bon, ceux qui défilent à Balfour, etc. Bon, il commence à avoir cette tendance malheureusement. Mais disons que nos maîtres ont promis qu'au niveau du peuple juif, la Brit Mila ne disparaîtra jamais. Et les commentaires disent pourquoi ? Parce que cette mitzvah a été donnée à la nation d'Israël. Et donc les 8 lumières, et comme la nation ne disparaîtra jamais, j'oublie à chaque fois de terminer, les individus disparaissent. Des millions sont morts à Auschwitz, mais la nation n'a pas disparu. Donc comme c'est une mitzvah qui concerne la nation d'Israël, comme la nation d'Israël ne disparaîtra jamais, cette mitzvah au niveau de la nation ne disparaîtra jamais. Donc c'est ça les 8 jours de Hanouka qui symbolisent les 8 lumières de la nation d'Israël. Et le shamash qu'on met au-dessus des autres et qui sert à allumer la nation, le shamash, disent nos maîtres, représente le tzaddik. Et il y a en vérité l'union entre le peuple et le tzaddik. Finalement, la mitzvah, c'est le shamash ou les lumières de Hanouka ? C'est pas le shamash. On est d'accord. Mais d'un autre côté, on allume les lumières comment ? Avec le shamash. Et comment il s'appelle le tzaddik ? Shamash. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. tu n'es là que pour servir ton peuple. Tu n'es pas là pour que le peuple te serve toi. Est-ce qu'il est beau le rabbi? Est-ce qu'il est beau le rabbi? Est-ce qu'il est beau le rabbi? Non. Un vrai rabbi, c'est est-ce qu'il est beau mon peuple? Est-ce qu'il est beau mon peuple? Est-ce qu'il est beau mon peuple? C'est pour ça que le tzaddik est appelé Shamash. C'est beau, hein? Comme ça correspond à ce cours. Ça veut dire que cette mitzvah, elle fait comprendre chacun sa place. Le peuple doit savoir que sans tzaddikim, il n'a pas de lumière. C'est vrai que c'est les tzaddikim qui nous donnent la lumière, évidemment. La lumière, on ne la porte pas en nous. Ou si on la porte potentiellement en nous, on n'arrive pas à la dévoiler. Heureusement que dans chaque génération, il y a eu des tzadikim qui nous ont apporté la lumière. Mais d'un autre côté, c'est quoi l'essentiel? La mitzvah, elle est sur la lumière du Shamash ou la lumière de la Chanoukia? La mitzvah, c'est sur la lumière du peuple. Donc ce qui veut dire que l'essentiel, c'est le peuple, pas le tzadik. Même si on n'a pas de lumière sans le tzadik, finalement la finalité, c'est la lumière du peuple, pas la lumière du tzadik. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Vous comprenez? Et ça, c'est Hanouka. Vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que deux fêtes ne disparaîtront jamais de notre histoire? La fête de Pourim et la fête de Hanouka. Beaucoup savent pour la fête de Pourim, mais la fête de Hanouka, c'est marqué aussi. Ce sont deux fêtes qui ne disparaîtront jamais. Maintenant, allons un petit peu plus loin encore, pour mieux comprendre ce qui se passe. Le premier jour, on allume une lumière. Maintenant, on allume de quel côté? De la gauche vers la droite. D'accord. On commence par la gauche. On donne un sacré crédit à la gauche quand même. Hein. C'est vrai, après on va à droite. C'est marrant, c'est toute l'histoire de la politique israélienne. Pendant pratiquement 60 ans, on est dirigé par la gauche. D'accord. Après par la droite. Et Bezrat Hashem, bientôt l'espoir fait vivre par le Mashiach. D'accord. Qui est la lumière finalement qui sort. Donc on commence par la gauche, la droite, et après la lumière la délivrance. Bon maintenant, j'ai exagéré en parlant sur le plan politique, mais qu'est-ce que représente en vérité la gauche et la droite dans le sens thoraïque? La gauche représente le monde d'en bas, la matérialité, ça c'est les codes au niveau du Zohar, etc. Et la droite représente le monde d'en haut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Que pour pouvoir avoir la lumière, tu vas de la gauche vers la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut associer le monde matériel au monde spirituel pour mériter la lumière. Si tu n'es que dans la matérialité ou que dans la spiritualité, tu n'auras jamais la lumière.
Et on en allume.
Comment?
Et on en allume combien? 44.
44.
Et 4 et 4, 8, c'est l'alliance des deux pour pouvoir justement...
Non mais 44 avec le Shamash ou sans le Shamash?
Tout.
Avec
tout
le Shamash?
Tout compris 44. 44, c'est l'alliance des deux, la droite et la gauche.
Pourquoi l'alliance des deux?
Les 44, si on fait 4 et 4, 8, c'est cette alliance, le brite entre les deux.
Ah, il a fait. Ah oui, 4 et 4, 8, ça fait. On retrouve le chiffre 8.
Voilà.
Bravo. Vous vouliez dire quelque chose, excusez-moi?
Ne se révélait pas. On allait vers la droite. La droite, c'est Tsafon, c'est Tsafoun aussi. Donc ça montre que plus on va vers la droite, et moins il se révèle.
Si on n'est que vers la droite.
Si on n'est que vers la droite.
Absolument. Alors regardez cette merveille de l'allumage, puisqu'on allume jeudi soir. Donc on a expliqué les huit lumières.
Jeudi soir.
Jeudi soir on allume. Les huit lumières correspondent au peuple juif. La Brit Mila, qui est la mitzvah qui a été donnée à tout le klal. Le Shamash correspond au tzaddik. La vraie mitzvah, c'est la lumière du peuple, pas la lumière du tzaddik. Le tzaddik est appelé Shamash pour dire il sert le peuple. Mais regardez, c'est d'une folie. Après, on allume, à chaque fois, on va de la gauche vers la droite, de la matérialité vers la spiritualité, pour nous faire comprendre que quoi? Que la lumière, la délivrance, ne se dévoilera que si on arrive à associer le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Dans le cadre du cours d'aujourd'hui, l'association entre le roi et le juste, puisque le juste, il correspond au monde d'en haut, et le roi, il correspond au monde d'en bas, puisque l'activité principale d'un roi, c'est quoi? C'est le social, le politique, l'économique, le militaire, etc. C'est de construire la nation d'abord sur le plan matériel. Et donc, on comprend qu'en allant, regardez tous les signes incroyables qu'il y a dans cette mitzvah-là, de la gauche vers la droite, à ce moment-là, on associe le monde matériel avec le monde spirituel. On continue. Contre qui on s'est battu à cette époque-là? Contre eux? Contre les Grecs. Pourquoi c'est Lucide?
C'était le roi Adama,
Ah, le roi des Grecs. Il s'appelait comment?
C'est Lucide.
Ah, il était très lucide alors. Bah oui, les Grecs sont très lucides, très logiques, très lucides. C'est incroyable comme le nom, il est... Voilà. Alors maintenant, regardez. C'est rapporté dans le Talmud et dans d'autres textes. Vous savez qu'au départ, il y avait une alliance entre les Grecs et les Romains, et entre les Grecs et Israël, très 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 forte. C'est que pendant des siècles, les Grecs envoyaient leurs philosophes en Israël pour apprendre auprès des maîtres d'Israël. Des maîtres d'Israël, il y a des tas de textes dans le Talmud qui nous montrent que les maîtres allaient jusqu'à Athènes pour être en relation avec les Grecs, etc. Pendant très très longtemps, il y avait vraiment une grande grande entente entre les Grecs et Israël. Une très grande entente. Par exemple, Alexandre le Grand était un grand ami de qui? De Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi, celui qui a écrit les Mishnayot, qui vivait dans la région de Tibériade, etc. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un texte dans le Talmud. Alexandre le Grand, à chaque fois qu'il allait faire une guerre, bon, il a fait ça toute sa vie, la nuit, il rêvait qu'à la tête de ses armées, il y avait un vieillard dont il voyait à chaque fois le visage, qui était à la tête de ses armées, et tous les ennemis tombaient devant l'armée d'Alexandre le Grand. Et il se demandait, mais qui c'est ce vieillard-là? Et quand il est arrivé en Israël, à ce moment-là, il a demandé à voir les maîtres d'Israël, et à leur tête est venu Rabbi Yehuda Hanassi. Et quand il l'a vu, c'est un texte dans le Talmud, il est descendu de son cheval, il a couru vers lui, et il a serré dans ses bras. Et il lui a dit merci, 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 merci. Et tous les soldats d'Alexandre le Grand ne comprenaient pas. Qu'est-ce que notre roi, il va embrasser un juif? Non mais ça veut dire quoi? Et alors Alexandre le Grand a compris que ses généraux, tout ça, ne comprenaient pas, puisque bon, Israël, qu'est-ce que c'est par rapport aux Grecs à l'époque? Et donc, il ne comprenait pas que tu t'humilies à embrasser un rabbin juif. Et à ce moment-là, il lui a raconté l'histoire. Il a dit, mais c'est lui que je vois depuis des années dans chacun de mes combats. C'est la première fois que je le vois maintenant. C'était ce visage-là que je voyais qui était à la tête de mes troupes et que tous nos ennemis tombaient. Et à ce moment-là, il y a eu une grande, grande alliance entre Alexandre le Grand et Israël aussi, qui avait déjà commencé avant, plus sur le plan philosophique, etc. Et après, ça a commencé à aller très, très mal. Et vous savez quand? Comment ça a commencé à aller très, très mal? Quand la Grèce a envahi la Syrie, et qu'à ce moment-là, ils ont nommé un Syrien, dirigeant grec, entre parenthèses, il n'était pas grec, c'était un Syrien, dirigeant grec de la Syrie, les premiers, entre parenthèses, grecs, ce n'était pas de vrais grecs, puisque les grecs avaient conquis le monde entier. Ce n'était pas des grecs d'origine, mais des grecs, on pourrait dire, affiliés à la Grèce. Les premiers qui ont commencé à attaquer Israël, à calomnier, à inventer des trucs, etc., sur Israël, ont été précisément, donc, ce représentant, je ne sais plus comment il s'appelait, ce représentant de Syrie. À ce moment-là, ils se sont attaqués à nous, et ça a commencé, tout a commencé à chambouler, etc. Comment?
Antiochus,
mais bien sûr, Antiochus. Il s'appelait Antiochus, bravo. Il s'appelait Antiochus. C'est lui qui a commencé, c'était un Syrien, en vérité, un véritable Syrien. Bon, ce n'est pas les Syriens d'aujourd'hui, évidemment, mais à l'époque, c'était un véritable Syrien qui est devenu grec et qui a complètement adhéré à l'idéologie grecque. Et c'est lui le premier qui s'est attaqué à... Et nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable. Une allusion, c'est dans le Zohar, entre autres. Quand Abraham s'est battu contre les quatre rois pour récupérer Lot, c'est marqué qu'il s'est battu contre eux jusqu'à Damasek, jusqu'à Damas. Il n'a pas été plus loin que Damas. Et le Zohar dit, ça fait allusion au fait qu'un jour, un grand ennemi d'Israël sortira de Damas. Ça veut dire que dans la Torah de Moshe, c'était déjà marqué qu'ils sont arrivés jusqu'à Damas, après ils n'ont pas pu aller plus loin. Comme pour faire allusion au fait que Damas un jour se révolterait contre eux. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, parmi les plus grands ennemis d'Israël, ça reste encore une fois la Syrie. Voilà. Il y a un sens très, très, très profond à ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que qu'est-ce qu'on voit avec les Grecs? Et on a terminé. Au début, on avait une alliance énorme. Ils respectaient nos maîtres et nos maîtres respectaient énormément les grands philosophes grecs. Vous savez que le Rambam a écrit ce qui lui a valu qu'on a fait une autodafé de ses livres. Qui c'est qui a fait une autodafé de ses livres? C'était des Chachamim de quel pays? Des Français. D'où ça? De Lunel. Lunel. Lunel, c'est au sud. Quand il a osé écrire dans le Moré Nebuchim, dans le Guide des Égarés, que les premiers prophètes grecs sont arrivés à un niveau de compréhension qui était la dernière porte avant la prophétie. Vous imaginez, ils sont arrivés pratiquement au niveau des prophètes, comme ça écrit Maïmonide. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le livre. Il avait un respect énorme pour eux. Donc Platon, Socrate, etc. Il est considéré vraiment comme des géants. C'est pour ça qu'il y avait des relations énormes entre les maîtres d'Israël et ces philosophes-là. Quand les rabbanim de Lunel, il y avait une conscience, c'était un petit peu le Bnei Brak de la France à cette époque-là, tous les grands maîtres se trouvaient à cet endroit-là, ils ont vu ce livre-là, ils ont fait une autodafé. Ils connaissaient pas Maïmonide. Après, il y en a un, quand il a entendu parler de Maïmonide, il pensait que c'était un malade mental qui avait écrit un livre pareil. Quand ils ont compris qui était Maïmonide, qui vivait en Espagne, ils ne le connaissaient pas. À cette époque-là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de WhatsApp. Quand ils ont compris qui était Maïmonide, celui qui était à la tête de ceux qui avaient fait l'autodafé de son livre, il est parti pieds nus de Lunel jusqu'en, je ne sais plus dans quelle ville il était. Dans quelle ville était Maïmonide en Espagne? Hein? Cordoue. Oui. Pieds nus. Il est arrivé les pieds morts, les pieds déchirés, etc., pour lui demander pardon d'avoir brûlé son livre. Pieds nus, c'est une histoire authentique, hein, pieds nus. Tu ne te rappelles plus comment il s'appelait, c'était un très très grand maître de France.
Jérôme.
Comment?
Jérôme.
Qui?
Rabbeinu Yona de Jérôme.
J'ai l'impression, Jérôme, oui. Rabbeinu Yona. Un immense Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, bravo, bravo, bravo. Rabbeinu Yona, qui était un des chefs de ceux qui avaient brûlé le livre de Maïmonide, il est parti pieds nus, donc des centaines de kilomètres pieds nus, pour aller demander pardon à Maïmonide. Mais en tous les cas, donc, ça prouve que les vrais maîtres savaient qu'au départ, il y avait donc une alliance très très forte. Et puis après, tout a été cassé, etc. Et pourquoi? Ben, c'est toujours le même problème. Pourquoi Antiochus il s'est battu contre Israël? Ben, parce que c'est deux pays voisins, donc l'ego, donc les territoires, donc si, etc., etc. Les Grecs, eux, vivaient très très loin d'Israël, donc il n'y avait pas ce problème d'ego. Et encore une fois, l'ego est venu au niveau des dirigeants. Et ça a été la séparation totale entre la Grèce et nous, et tout ce qu'ils nous ont fait, etc., jusqu'à la victoire des Hachmonaïm, mais qui n'a pas été une victoire facile. Il faut savoir que c'est des centaines de milliers de Juifs qui ont été massacrés par les Grecs. Les Grecs étaient extrêmement forts, et cette guerre-là, elle a coûté la vie à énormément, énormément de... Ça n'a pas été une guerre comme ça, miraculeuse, comme on croit, les tac-tac, et c'est fini. Ça a duré des années, et c'était pratiquement perdu d'avance. Il y a eu une aide d'Hachem, en tout cas, c'était pas évident. Comment ?
Ça a toujours été le même processus. En Égypte, c'était pareil aussi.
Voilà, c'est au dernier moment, quand on n'y croit plus, que tout d'un coup, il y a un sursaut, quoi.
Voilà, et puis que finalement, on s'entend très bien, tout va très bien, et puis ensuite, c'est la chute.
Et ouais, exactement.
C'est l'Espagne, c'est
la... Mais c'est ce qui va se passer aux États-Unis, on le verra encore.
Même les Hachmonaïm sont tombés du fait que, je crois, qu'ils
oui, après,
avoir la prêtrise.
200 ans après, oui. Voilà, mes amis, on va s'arrêter. Donc, la conclusion, je répète qu'il n'y a pas cours lundi prochain. Et la conclusion, mes amis, on doit investir le maximum pour la construction de notre nation, qui un jour sera aussi, Bezrat Hashem, le modèle de la construction de toutes les nations sur Terre, avec une unité et une fraternité et une paix magnifique entre toutes les nations de la Terre. Amen. 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 Amen.